Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et Adrien Gindre de LCI.
Bonjour. Bonjour
Adrien. Cette émission est en direct, vous le savez, jusqu'à 13h. Vous pouvez donc réagir sur les réseaux sociaux, hashtag le grand jury. Et vos questions, vos interpellations seront relayées en fin d'émission dans Questions Nettes. Alors Olivier Véran, votre gouvernement est-il en train de perdre la main ? De l'avis général, le déconfinement s'était plutôt bien passé, mais depuis la rentrée, tout se complique. Les Français ne comprennent plus vos décisions pour endiguer la pandémie et s'inquiètent de votre capacité à les mettre en œuvre, sur les tests notamment, avec des résultats qui, dans certaines régions, dans certaines villes, arrivent parfois au bout d'une semaine, 10 jours, les rendant parfaitement inutiles. Une incompréhension qui est en train de se muer en défiance dans l'opinion, mais aussi chez leurs représentants. Des élus locaux qui protestent contre vos dernières dispositions sur la fermeture des bars et des restaurants, des décisions venues, selon eux, d'en haut, sans concertation. Immense paradoxe pour un gouvernement dirigé par un homme, Jean Castex, promu à Matignon, justement, pour associer les territoires et pallier une centralisation excessive que vous avez payée cher pendant le confinement. De tout cela, nous parlerons. Olivier Véran, vos réponses sont très attendues aujourd'hui et nous commençons tout de suite par la première question, Adrien Gindre.
Les alertes se multiplient, les vôtres, celles de médecins. Ce matin encore, le président de l'Ordre des médecins, Patrick Bouet, nous dit « La deuxième vague arrive plus vite que nous le redoutions ». Vous avez toujours eu à cœur de faire la transparence pour les Français, Olivier Véran. Est-ce que ce qui est en train de se produire, c'est cela ? Est-ce que nous sommes en train de subir et de voir déferler sur le pays la deuxième vague de l'épidémie de Covid ?
D'abord, vous dire, je suis venu ce matin, ce midi, pour faire un exercice de transparence, pour pouvoir expliquer la stratégie qui est la nôtre, qui restait d'ailleurs une stratégie unique, que nous poursuivons depuis plusieurs semaines, mais je crois qu'il y a besoin de pédagogie, il y a besoin de pouvoir éclaircir un certain nombre de choses, et je me réjouis de votre invitation. Ça fait plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois, que nous alertons sur le fait que nous n'avons pas vaincu le virus. Nous avons vaincu une vague épidémique. Quand je dis « nous », c'est les Français, avec le confinement, avec les efforts qui ont été réalisés par les uns et les autres, du maintien des gestes barrières, la distanciation sociale, la vigilance de tous les instants. Mais le virus, lui, n'a pas disparu. Il n'a pas disparu de France, comme il n'a d'ailleurs disparu d'aucun pays au monde dans lequel il s'est installé. Progressivement, l'épidémie a repris de l'ampleur, à travers notamment la jeunesse. Hélas, que je n'incrimine pas en disant ça, c'est un constat. À la faveur de l'été, notamment dans certaines villes, dans certaines métropoles, j'ai ensuite alerté en disant que le virus n'avait pas muté. J'ai alerté en disant que le virus qui touchait les jeunes risquait de toucher les personnes moins jeunes, les personnes vulnérables, parce que nous l'avons constaté dans tous les pays du monde dans lesquels c'est arrivé, et que l'impact sanitaire serait absolument celui qui arriverait, c'est-à-dire une augmentation des hospitalisations, des réanimations. Mais en fait, ce que j'ai expliqué en conférence de presse, c'est que le profil épidémique n'est plus le même. Lors de la première vague, vous vous souvenez de cette courbe que j'avais tracée sur une chaîne de télévision en expliquant qu'il fallait aplatir une courbe nationale. Aujourd'hui, nous avons des outils de mesure beaucoup plus précis, territorialisés, qui nous permettent de percevoir les choses, c'est-à-dire que le virus circule davantage lorsque la population est concentrée, donc dans les métropoles, et qu'il y a donc autant de vagues, si vous voulez que j'emploie le mot vague, qu'il y a de territoires touchés par le virus. Et donc c'est autant de courbes que nous devons aplatir, autant de foyers épidémiques que nous devons éteindre. Donc ce n'est pas une stratégie, c'est une stratégie nationale avec des outils nationaux, une unité et un commandement de pilotage, mais des mesures qui sont territorialisées, qui sont différenciées. On ne traite pas la situation marseillaise ou parisienne comme on traiterait la situation de territoires qui sont moins denses et qui font face à moins de reprises épidémiques. Par contre, il y a une règle, la vigilance et les gestes barrières, c'est partout.
Mais Olivier, est-ce que ce serait pas plus clair de dire, oui, dans certains territoires, la deuxième vague est là? Est-ce que ce serait, dans un exercice de transparence que vous voulez faire aujourd'hui, pas plus compréhensible de la part des Français?
Ça dépend ce que vous entendez par vague. Je crois qu'il y a beaucoup de Français...
Une augmentation de l'épidémie brutale et dans certains endroits, difficilement contrôlable.
Ben, dans ce cas-là, si c'est ce que vous entendez par vague, nous y sommes dans un certain nombre de métropoles. Mais le mot vague, il est très connoté dans la mémoire collective des Français. Le mot vague, il appelle aussi à notre mémoire le fait qu'il y avait des réanimations qui étaient saturées, des hôpitaux qui étaient remplis, des évacuations sanitaires qui étaient faites au quotidien. Et le mot vague emporte ce type de conséquences dans l'esprit des Français. Or, à l'heure à laquelle je vous parle, nous ne sommes nulle part sur le territoire en situation de saturation complète des réanimations, d'évacuation sanitaire, d'annulation massive des soins. En cela, nous sommes dans une situation qui est différente. Et par ailleurs, pardon, le mot vague renvoyait aussi à cette courbe que vous voyez, vous vous en souvenez, qui était ascensionnelle, qui était exponentielle, avec un facteur de reproduction du virus qui était très élevé, alors qu'aujourd'hui, l'effort collectif que nous avons maintenu, les gestes barrières, les protocoles sanitaires en entreprise, dans les transports, dans les écoles, dans les universités, font que le virus circule moins vite et que donc la courbe n'est pas la même. Ce qui nous donne plus de temps pour voir venir, mais ce temps, nous ne devons pas l'utiliser regarder le virus monter. Oui. Nous devons au contraire l'utiliser pour empêcher le virus de monter.
Marion Mourgue.
Vous dites aujourd'hui que les lits de réanimation ne manquent pas. Pourtant, on a déprogrammé 20% des opérations. Alors comment vous expliquez qu'on n'ait pas suffisamment de lits si on n'est pas encore au niveau supérieur de la vague qu'on a connue au mois de mars?
Deux éléments de réponse.
20% à Paris, je précise.
Deux éléments de réponse. D'abord, nous avons repris une activité de médecine normale dans notre pays. Elle n'est pas si normale que ça, puisque beaucoup d'opérations, notamment en cancérologie, en orthopédie, en chirurgie cardiaque, avaient été différées au printemps dernier pour laisser des places de réanimation pour les malades du Covid. Ces malades, il a fallu les soigner tout l'été, ce qui fait que les soignants sont fatigués d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas pu se reposer. À peine avons-nous absorbé tous ces retards de prise en charge qui étaient la conséquence du virus au printemps, que nous nous posons la question de prendre à nouveau du retard et de différer à nouveau certains soins indispensables pour les Français. Donc ce que nous voulons, c'est être capable d'agir vite et fort avant de devoir faire de la place dans les réanimations et donc de différer des soins pour des personnes, des Français, qui ont besoin de ces soins et qui n'ont pas le Covid. Vous comprenez ? Si la situation devait l'exiger, nous serions à nouveau obligés d'annuler de la chirurgie programmée, c'est le cas en Ile-de-France, c'est le cas à Marseille désormais, pour libérer des places de réanimation et sauver les vies, pour ne refuser aucune personne. Et si la situation devait encore l'exiger, nous transformerions par exemple un bloc opératoire ou une salle de réveil en unité de réanimation.
Olivier Véran,
ce qui fait que nous sommes capables d'augmenter les capacités, mais au prix d'un sacrifice de la santé des Français, ne voulons pas.
Ce que les Français ne comprennent pas et qui nous écoutent, et nous-mêmes, c'est pourquoi on était à 5 000 lits en réanimation, vous étiez monté à 10 000 lits. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'ait pas 10 000 lits spécifiques réanimation dans notre pays de manière pérenne ?
Mais parce que vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, passer de 5 à 10 000 lits.
Mais vous avez eu 6 mois, Olivier Véran.
En 6 mois, nous avons acheté tous les respirateurs, nous avons fait un stock stratégique d'État de tous les médicaments indispensables pour pouvoir prendre en charge en réanimation les malades. Ce qui fait que nous sommes capables d'accueillir et de soigner jusqu'à 29 000 malades en réanimation et 12 000, si c'était nécessaire, un jour donné. Donc cette capacité d'amplification des structures, des lits, des services de réanimation, elle est réelle. Mais elle se fait au détriment des services d'activité normale que sont les blocs de chirurgie et les salles de réveil. Vous ne pouvez pas construire des unités de réanimation du jour au lendemain pour accueillir 5 000 malades. Vous êtes capable d'avoir des activités modulaires et de changer une activité en une autre. À Marseille, quand je suis allé à Marseille dans le service de réanimation, j'ai annoncé des crédits supplémentaires, par exemple, pour les soins critiques, pour les services de réa, 2 millions d'euros. J'ai annoncé aussi 15 millions d'euros de soutien de l'Agence régionale de santé en trésorerie des hôpitaux marseillais.
On va y venir sur Marseille.
On est capable. On fait vraiment le maximum dans des délais extrêmement courts. Mais c'est une réalité.
On comprend bien qu'on ne puisse pas, en un claquement de doigts, créer de nouveaux hôpitaux, de nouvelles unités de réanimation, etc. Mais qu'on n'ait pas eu le temps jusqu'ici, admettons. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on va engager l'ouverture de nouveaux lits pérennes de réanimation, le recrutement et la formation de nouveaux personnels, puisque ça fait des semaines que vous, que le Premier ministre, nous expliquez qu'on va devoir vivre avec le virus et donc soigner avec le virus pendant un temps long. Est-ce que c'est un chantier qui est ouvert ? Est-ce que la France va se doter de capacités de réanimation pérennes, supplémentaires, sans devoir toucher aux autres activités de soins ?
Le Ségur de la Santé porte en lui, outre les augmentations de salaire, 15 000 recrutements de soignants et la réouverture de 4 000 lits. Ça fait des décennies que chaque année, nous fermons des lits dans l'hôpital. Pour la première fois, nous ouvrons des lits supplémentaires. Mais Adrien, je voudrais que vous compreniez, qu'on saisisse ensemble quelque chose. Si on considère qu'on peut laisser filer le virus, puisque en définitive, on a suffisamment de lits de réanimation pour pouvoir soigner un maximum de gens, ça veut dire par là qu'on accepte l'idée que des gens vont aller massivement en réanimation. Mais aller en réanimation, c'est pas neutre, c'est pas anodin. Une personne, la jeune femme de 47 ans qui était en réa dans le lit à Marseille, elle n'a pas demandé, elle est en réanimation. Elle a pas, son sujet, c'est pas d'avoir un lit de réa pour la soigner. Ça, c'est si on est allé au bout du bout et qu'on n'a plus le choix. Le sujet de cette femme, c'est de ne pas attraper le virus, de ne pas développer une forme grave. Donc, considérez qu'on, quand bien même nous aurions 50 000 lits de réanimation dans le pays, est-ce qu'on attendrait d'avoir 50 000 malades en réanimation? La mortalité des gens qui Olivier sont admis Véran, en réanimation, c'est un reflet de la gravité, Olivier de la sévérité Véran. Du virus. Ce que nous devons faire, c'est empêcher les gens d'arriver en réanimation.
Certes, il est là, l'enjeu majeur. C'est un objectif et c'est normal, mais quand on entend qu'en Allemagne, il y a 30 000 lits de réanimation qui sont en permanence accessibles et qu'il n'y a pas de nécessité de vider d'autres services, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit... Pourquoi faut-il encore qu'on soit dans cette configuration-là? Voilà la question qui se pose.
J'ai été médecin hospitalier avant d'être ministre de la Santé. Le discours sur les lits, le manque de personnel, le manque de lits, le manque de moyens à l'hôpital, je l'ai porté. Je l'ai porté comme parlementaire, je l'ai porté comme médecin, je l'ai même porté comme syndicaliste avant de commencer en politique. Je ne vous dirai pas autre chose. Et quand je vous dis qu'avec le Ségur, les 8 milliards d'euros, plus les 6 milliards d'euros d'investissement sur l'hôpital, 8 milliards d'euros par an de revalorisation, 6 milliards d'euros d'investissement, la reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux, 13 milliards pour leur permettre de se moderniser, d'investir, on est en train justement de préparer l'hôpital de demain, c'est ça. Mais n'oubliez pas une chose, j'insiste vraiment sur ce point, ne considérons pas que ce serait moins grave si on avait plein de lits de réa pour admettre les gens. C'est trop tard quand les gens vont en réanimation, c'est que le virus a fait déjà trop de victimes. Nous devons agir en amont de cela.
Marion Mourgue.
Vous parlez du personnel soignant qui est fatigué, qui a connu une grosse étape depuis mars. Est-ce qu'aujourd'hui vous mettez l'accent pour recruter massivement, avec des conditions financières bien supérieures à ce qu'on a connu, un personnel soignant qui soit opérationnel rapidement?
Oui.
C'est-à-dire dans quelle proportion?
La réponse est oui. J'ai parlé de 15 000 embauches de personnel à l'hôpital. On rend les métiers plus attractifs. Il y a plusieurs centaines de milliers d'infirmières diplômées et qui n'exercent plus leur métier dans notre pays parce que le métier n'était pas assez attractif. D'ailleurs, il n'était pas attractif parce que c'était des métiers féminisés et que donc, entre guillemets, ça faisait des décennies qu'on considérait que c'était pas grave. Eh bien, le Ségur de la santé, c'est une augmentation de l'attractivité, une augmentation de la reconnaissance sociale et financière de ces métiers. Prenez...
Mais le besoin d'ici la fin de l'année, combien de personnel nouveau arrivera effectivement dans les hôpitaux français? Vraiment, là, dans les semaines qui viennent,
La première méthode, c'est que j'ai décidé d'aller au-delà de l'accord avec les syndicats. Nous avions prévu et signé avec eux que la revalorisation des salaires commencerait en mars. Nous avons décidé de le faire dès septembre. Ça veut dire que la semaine prochaine, la plupart des salariés, des aides-soignants, des infirmières de la fonction publique hospitalière, à l'hôpital comme en EHPAD, percevront déjà 90 euros net de plus par mois. Ce sera 90 de plus en mars, plus les 35 euros de revalorisation par les grilles, etc. Mais attendez, on n'attire pas des soignants quand on ne les reconnaît pas financièrement et socialement. Et donc, c'est aussi un appel que vous me permettez de lancer. L'hôpital est attractif. Je sais que les soignants ont une vocation au cœur. C'est une vraie vocation, sauver des vies. Ils nous l'ont montré pendant des mois. Ils continuent de nous le montrer. Et donc, je fais un appel, notamment dans les EHPAD où nous avons besoin de renforts. Nous avons des postes ouverts qui sont des postes financés et qui sont encore des postes qui ne sont pas pourvus. Mais, je vous le dis, l'augmentation de l'attractivité, les appels que nous lançons, le changement profond qu'on est en train d'opérer, notamment à l'hôpital et dans les EHPAD, avec ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les règles de gouvernance, où on reconnaît la place de chacun, chacun est libre de prendre des décisions, on est dans des règles beaucoup plus souples, beaucoup plus territorialisées. Tout cela recrée une dynamique, recrée du sens pour les soignants, pour qu'ils retrouvent le chemin
de l'hôpital et des EHPAD. Malgré vous, que quelque part, pour les effectifs, c'est tendu dans les hôpitaux.
Nous payons des années de fermeture de lits, des années de suppression d'effectifs, des années de non-investissement dans certains hôpitaux. Prenez l'hôpital de Marseille par exemple, nous investissons 360 millions d'euros pour pouvoir le rénover totalement. 360 millions d'euros. Il a atteint un état de vétusté qui est notoirement connu.
On va venir sur Marseille précisément.
Mettre le paquet sur ces structures, c'est aussi rendre la structure plus attractive. Mais encore une fois, nous avons des soignants qui sont du niveau de formation vraiment, vraiment au-dessus de la norme de notre pays. Nous avons des soignants qui ont une vocation qui nous ont montré.
Encore une fois, du nombre
qui nous ont montré. Et donc, c'est un appel pour qu'ils puissent se mobiliser, mais je les sais mobiliser, mais je les sais aussi fatiguer. Et lorsque nous passons des appels à la population en leur disant faites gaffe au virus.
Alors, justement,
dans la manière
appel lancé, nouvelle question de Réagin.
On a bien compris que l'objectif, c'était de tout faire pour éviter un reconfinement total du pays. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Il y a une prix Nobel d'économie, Esther Duflo, française, qui, elle, propose au contraire de décider d'un reconfinement du 1er au 20 décembre pour permettre aux Français de fêter les fêtes de fin d'année en famille, dans de bonnes conditions, sans que ce soit un lieu de contamination. Est-ce que ça peut être une option que vous reteniez?
Nous voulons que les Français puissent passer des fêtes en famille, des fêtes de fin d'année en famille. C'est un objectif en soi et nous le prenons très au sérieux. Aller anticiper un confinement généralisé de 3 semaines à telle période de temps me semble de l'ordre de la prédiction et comme vous le savez, je ne suis pas fanat de prédiction.
Et ça ne peut
moi,
pas être un bon outil.
Je suis fanat de l'anticipation et je suis fanat de la réaction adaptée. Les réactions et les mesures que nous prenons sont adaptées à la situation épidémique du moment. Je ne me projette pas à dans 2 mois pour faire des plans sur la comète, je me projette au jour le jour avec mes batteries de chiffres, d'indicateurs, de courbes, tous les retours de terrain pour proposer aux Français le chemin le plus sûr pour éviter le confinement et le chemin le plus sûr pour qu'ils puissent passer des fêtes de famille dans les meilleures conditions.
Et vous reconfinerez ici.
Ça ne passera pas par un confinement anticipé de 3 semaines. Nous ne voulons pas confiner le pays.
Mais
les voisins autour de nous le font. Ouais. Certains pays ont fait le choix. Les Pays de Galles, hier, Cardiff, Madrid en grosse partie. J'ai vu que la Suède, dont on me parle souvent, était déjà passé à un auto-confinement et risquait d'aller à un confinement total de Stockholm. Il y a de nombreux pays autour de nous qui font d'autres choix ou qui font des choix qui sont parfois proches des nôtres. Mais nous ne voulons pas arrêter totalement la vie économique, sociale, culturelle, sportive, familiale des Français. C'est pourquoi nous prenons des décisions qui sont adaptées à la gravité du moment, territorialisées, différenciées, concertées. C'est un travail de conviction qui est important. Pour cela, nous avons une stratégie qui est claire, il faut que nous ayons une communication claire et nous avons peut-être rencontré des difficultés sur ce plan-là.
Mais est-ce qu'on pourrait reconfiner une ville ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous dites, si à Marseille ça ne fonctionne pas, les mesures sont déficientes, est-ce qu'on peut reconfiner une ville ?
J'ai souhaité donner de la lisibilité en transparence aux Français. Et lors de la dernière conférence de presse, vous l'avez vu, il y a l'alerte maximale, il y a ce qu'on appelle l'état d'urgence sanitaire localisé. L'état d'urgence sanitaire localisé peut aller jusqu'à des mesures de confinement. Donc on n'exclut aucune option, mais on ne se projette pas dans l'option du confinement, on agit pour l'empêcher. Et quand je dis on demande aux Français d'agir avec nous pour l'empêcher.
Olivier Véran, un certain nombre de médecins, et y compris le président du Conseil national des médecins, vous demandent d'aller plus loin, qu'il y ait une anticipation sur la situation et qu'on ne soit pas en défense. On vous appelle à prendre des mesures plus fortes. Alors, vous excluez le reconfinement. Qu'est-ce que vous pouvez prendre aujourd'hui comme mesure pour éviter qu'il y ait une propagation du virus importante comme on le connaît aujourd'hui ?
D'abord, rappeler qu'il reste un petit effort. Il reste un petit effort
de la part des Français
à réaliser de la part des Français pour que le virus recule.
Parce qu'il y a
On n'est pas dans la situation du printemps. Oui et non. Il y a un maintien de l'effort et de la vigilance. Il y a une forme de pensée magique. Il faut le dire. Cet été, j'ai passé mon été en réaction à des experts qui disaient que les jeunes pouvaient se contaminer et que c'était sans doute très bien. Ben non. Et que le virus ne passerait pas des jeunes aux moins jeunes. Ben non. Et que le virus avait muté. Ben non. Donc à un moment donné, il faut qu'on sorte de la pensée magique et qu'on considère le virus pour ce qu'il est, c'est-à-dire un ennemi qui peut être plus ou moins visible, mais qui reste présent.
Vous regrettez cet été d'avoir laissé les Français voyager, aller de Paris à Marseille, par exemple, pendant tout l'été ?
Je ne regrette pas d'avoir laissé les Français retrouver une vie dont ils avaient besoin. Vous savez, on n'a pas terminé cet effort de résilience, cet exercice de résilience collectif qui est la conséquence du confinement. Donc nous devons aussi vivre. Mais vivre avec le virus, c'est vivre en faisant attention. Et aujourd'hui, si on fait un peu plus attention, on réduit sa bulle sociale, on voit un peu moins de gens, on diversifie un peu moins ses relations sociales, on est prudent avec les gestes barrières. Les réas à Marseille, vous savez, j'ai demandé au réanimateur, cette personne-là, elle a été contaminée où ? Milieu familial. Cette personne, elle a été contaminée où ? Un mariage. Cette personne, elle a été contaminée où ? Sortie avec des copains dans un bar. Cette personne a été... C'est-à-dire, c'est systématiquement là. C'est-à-dire qu'on met le masque au travail, on le met dans le métro, on le met quand on va à l'école, on le met quand on sort dans la rue, on le met partout où c'est obligatoire. Il ne faut pas que quand on rentre chez soi, on se dise qu'on est à l'abri de notre cocon, qu'on peut recevoir plein de potes ou recevoir toute notre famille. C'est là, hélas, que les contaminations se font aussi.
Mais ce n'est pas, par exemple, ce qui risque de se passer quand, dans une ville comme Marseille, vous fermez les bars et les restaurants. Est-ce que vous ne craignez pas que les gens se retrouvent chez eux de ce fait ? Ça paraît presque tomber sous le sens.
Sur les bars et les restaurants, il ne s'agit pas d'incriminer. D'abord, je comprends même la colère qui peut s'exprimer de la part des restaurateurs et des bars. Leur dire que le gouvernement ne les laisse pas tomber, qu'on n'est pas parti pour des mois et des mois de fermeture, on est parti sur 2 semaines avec un palier d'une semaine pour réévaluer la situation, qu'on ne les rend pas responsables de la situation. Et moi, je vois très bien le respect des protocoles sanitaires et la grande attention qui a été portée par les restaurateurs notamment et un grand nombre de bars. Mais je vois aussi des scènes, et vous les avez vues dans de nombreuses villes, vous avez 200, 300 jeunes qui sont debout à 11h du soir à l'intérieur d'un bar. Il n'y a plus du tout de distance, personne ne porte le masque puisqu'on boit. Et on a des chiffres qui attestent de ça. D'ailleurs, ils ont été publiés aujourd'hui dans un quotidien qui montre qu'il y a entre 2 et 4 fois plus de risques d'attraper le virus si on a fréquenté un bar les jours précédents. Donc il ne s'agit pas de dire « moi j'ai un bar mais je fais vachement gaffe ». En fait, que vous fassiez gaffe ou non, hélas, si vous êtes dans un lieu fermé, clos, sans masque et vous êtes nombreux, vous êtes à risque.
Vous parliez de pensée magique, mais 22 heures, ça semble être le chiffre magique.
Non, parce que ce qu'on constate aussi, c'est que l'activité dans un bar n'est pas la même en début de soirée et en fin de soirée. Pardon pour ça, mais le niveau d'alcoolisation, le niveau de consommation n'est pas forcément le même. Et donc, les foules sont beaucoup plus compactes à l'intérieur des bars après une certaine heure de la nuit qu'en début de soirée. Et d'ailleurs, le profil de consommation dans les bars n'est pas le même selon que vous y alliez l'après-midi ou si vous y allez tard le soir. Vous le savez très bien, sauf si vous n'avez jamais mis les pieds dans un bar, ce dont je doute, monsieur Sportouche.
Olivier Véran, normalement,
Olivier Véran.
Les restaurants...
Comme moi, oui, bien sûr.
J'imagine, c'est normal, c'est la vie.
Les restaurants ferment ce soir à 22h. Or, pour l'instant, on n'a toujours pas l'arrêté qui a été pris à Marseille. Quand est-ce que cet arrêté va être publié, puisqu'il faut quand même que les restaurateurs puissent s'organiser?
Oui, mais il fallait le temps de concerter.
Non mais Olivier,
il fallait le temps de concerter les restaurateurs et les bars.
Les élus,
Nous avons fait le choix avec Alain Griset qui était avec moi à Marseille de donner 24 heures de supplémentaires aux bars et aux restaurants, notamment pour qu'ils puissent vider tous les stocks qu'ils ont et qu'ils ont l'habitude d'écouler pendant le week-end. Le décret, l'arrêté préfectoral sera publié aujourd'hui pour être applicable ce soir.
Mais de concerter quoi, pardon Olivier Véran, parce que vous avez annoncé les décisions en milieu de semaine, vous êtes allé à Marseille et vous avez apporté des précisions à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a eu comme modification entre votre déplacement vendredi et la publication de l'arrêté aujourd'hui? Quand vous dites qu'il fallait le temps de concerter.
C'est la rédaction de l'arrêté. Quel est le territoire, quelle est la zone territoriale qui est concernée? Est-ce que c'est tout le bassin? Est-ce que c'est le département? Est-ce que ce sont des métropoles? Qu'est-ce qu'on fait de la petite commune de 1000 habitants qui a un café et dans lequel le virus ne circule pas?
Vous nous confirmez que ce sera uniquement Marseille et Aix?
Je vous confirmerai les choses quand j'aurai l'arrêté du préfet sous les yeux. Je n'en suis pas le rédacteur.
Il est midi 20, Olivier Véran. Vous comprenez qu'il est midi 20, on se dit comment ça se fait qu'il n'y ait pas un arrêté pour savoir exactement ce qui va se passer ce soir et où?
Je peux vous dire que les premières personnes concernées, c'est-à-dire les élus, sont au fait de l'arrêté qui va être publié.
Oui. Alors justement, les élus, arrêtons-nous un instant sur ça si vous voulez bien. Le président de région, Renaud Muselier, a annoncé dans le courant de la semaine qu'il déposerait un recours une fois l'arrêté publié. Il a appelé à manifester, par exemple, vendredi, il y avait un rassemblement devant le tribunal de commerce. On a vu également la maire de Marseille, la présidente de la métropole s'exprimer très durement contre l'attitude du gouvernement. On avait cru comprendre que toutes ces dernières semaines, l'idée c'était d'avoir une concertation préfet-maire. Vous venez de reprendre ce mot de concertation. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de ces élus? Ils n'ont pas compris ce que vous faisiez? Ou peut-être que vous avez tout simplement changé d'avis en jetant à la poubelle cette concertation préfet-maire et en reprenant les choses en main, puisque la situation l'exige?
D'abord, on parle beaucoup des élus de Marseille. J'ai appelé plus de 9 maires avant ma conférence de presse. La maire de Lille, que j'ai encore eue hier au téléphone, le maire de Montpellier, le maire de Grenoble, le maire de Saint-Étienne. Vous voyez, des maires de toutes couleurs politiques confondues, la maire Nathalie Appéré, la maire de Rennes, qui ont tous eu ce réflexe de dire on veut protéger nos populations.
C'est plus raisonnable que
et on va, je ne me permettrai pas de dire qu'il y a raisonnable, je ne porte pas de jugement de valeur. Je fais un constat, c'est qu'on parle d'une ville dans laquelle les réactions des élus, de certains élus, ont été plus vives, mais on ne parle pas beaucoup des villes dans lesquelles, en responsabilité, un certain nombre de maires...
Non mais à la logique, les vieillards, est-ce que vous trouvez que les élus de Marseille sont irresponsables?
On considérait que la concertation avait permis d'avancer. Je suis allé à Marseille et je leur ai rappelé deux choses. La première, c'est que le 12 août à 14h, j'appelle la maire de Marseille, au cœur de l'été. Le virus circulait peu. L'incidence devait être aux alentours de 20 pour 100 000, c'est-à-dire 15 fois moins forte que ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous avons eu un échange, elle était parfaitement consciente du fait que le virus repartait dans la population jeune à Marseille et qu'il fallait prendre des mesures, et elle demandait de l'aide de l'État pour pouvoir les faire respecter. Nous avons parlé des soirées rooftop sur les toits marseillais, des bars, du normal, une grande activité touristique.
Vous en faites tout le mois de vous interroger sur un président de région qui dit qu'il va déposer un recours et qui appelle à manifester.
Quand vous dites qu'il n'y a pas de concertation, pardon, il faut être factuel. La maire de Marseille, je l'ai eu au téléphone un grand nombre de fois. Je me suis rendu à Marseille le 27 août dernier, il y a un mois. J'ai rencontré les élus pendant plus de 2 heures et je leur ai dit, si vous ne prenez pas aujourd'hui les mesures qu'on vous propose, les mesures de couvre-feu, de limitation de rassemblement, hélas, il n'y aura pas de miracle. Dans quelques semaines, je reviendrai à Marseille et les mesures seront plus fortes. Donc, je leur ai dit la même chose. Je leur ai dit, si vous ne prenez pas aujourd'hui, si vous n'appliquez pas aujourd'hui les mesures qu'on vous propose et si vous ne nous accompagnez pas, hélas, dans quelques semaines, il y a un risque que les mesures soient encore plus dures. Ils l'ont compris.
Allons au bout de ce que vous dites.
Ils l'ont compris.
Quand le président de région annonce qu'il va déposer un recours et appelle à manifester comme d'autres élus, vous considérez que ces élus sortent de leur rôle?
Je dis que Renaud Muselier m'a accompagné à l'hôpital de Marseille, qu'il a entendu ce que les médecins marseillais disait de la situation, de ce que les soignants disaient de leur inquiétude sur Marseille, et qu'ensuite en préfecture, il a dit « je fais un recours pour que la justice statue et décide, parce qu'on est en République et que c'est la démocratie, et la décision de justice, nous la respecterons et nous la ferons respecter.
Donc il a un double langage.
Non, pas du tout, c'est une attitude... Pas du tout.
Ou électoraliste.
C'est une attitude responsable d'un élu qui considère qu'il va au bout des recours pour pouvoir attester que la décision que nous prenons est proportionnée et qu'elle est juridiquement fiable, et qui dit par avance, évidemment, cette décision, nous l'accompagnerons. Et il a d'ailleurs fait un communiqué après mon déplacement à Marseille, apaisant, en disant que des progrès avaient été enregistrés. J'ai eu le même type de retour de la part de la présidente de la métropole, de la part de la maire de Marseille, et d'un certain nombre de maires de communes aux alentours. Donc je crois honnêtement que nous avons retrouvé le chemin du dialogue. Ce déplacement à Marseille était extrêmement intense, parce que nous avons entendu ce que les médecins marseillais avaient à dire et chacun a pu désormais appréhender la situation.
Marion Maugue.
On entend une autre élue, Samia Ghali, qui est adjointe à la maire de Marseille, qui, elle, dit qu'elle n'enverra pas la police pour, en cas de contravention à donner dans les restaurants. Est-ce que pour vous, ça vous semble responsable de la part d'une élue, et est-ce que vous craignez derrière un mouvement de désobéissance civile ?
J'ai été élu local. Je le suis d'ailleurs toujours, conseiller régional, j'ai été parlementaire. Je connais le poids des responsabilités qui va avec l'acceptation d'un mandat. Nous représentons les Français qui nous ont fait confiance. Et les Français attendent de nous que nous respections, quoi qu'il en soit, les lois et les règles républicaines.
Donc elle va trop loin.
Je fais confiance à Samia Ghali comme élue républicaine pour faire respecter les règles républicaines sur son territoire républicain. Je crois qu'il ne faut pas trop en faire sur les réactions des uns et des autres des premiers jours. Je crois que le déplacement à Marseille était utile, encore une fois, et qu'il nous a permis de retrouver le chemin de la confiance pour avancer ensemble pour la protection des Marseillais.
Mais vous regrettez d'être allé trop loin, tout seul, trop vite, que le gouvernement ait annoncé des choses et ensuite ait repris le fil de la discussion. Vous dites on va reprendre le fil du dialogue.
Je vous remercie de dire tout seul, trop vite, parce que parfois j'ai le sentiment que c'est le ministre de la Santé et des Solidarités qui ferait la loi sur l'ensemble de l'activité économique de notre pays. Je vous rassure, les décisions que j'ai eues à présenter sont des décisions que j'assume, qui ont été concertées, décidées en Conseil de défense et de sécurité nationale, et qui engagent notre responsabilité collective. Et ce sont des mesures qui sont adaptées, qui correspondent à notre stratégie et qui visent à protéger les Français.
Olivier Véran, demain, Didier Raoult sera sur RTL en direct demain matin à 7h45 au micro d'Alba Ventura. Didier Raoult qui laisse entendre que les chiffres que vous donnez sur Marseille ne sont pas les bons et qu'il y a moins... que la courbe est en train de s'infléchir nettement. Est-ce qu'il ment ?
Il y a deux choses. Est-ce que la courbe s'infléchit nettement ? En tout cas, la courbe frémit en termes d'incidence, ce que j'ai d'ailleurs dit la semaine dernière, ce que j'ai rappelé vendredi. Et je me suis engagé à ce que tous les jours, nous partagions en transparence les chiffres, les perspectives et les évolutions avec l'ensemble des élus et des acteurs du territoire sanitaire de Marseille. Premier point. Et tant mieux ! Tant mieux si le virus devait commencer à refluer. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne reflue pas assez vite.
Mais il
reflue.
Et ce que nous dit... Donc Didier Raoult n'a pas tort.
Je dis que c'est trop tôt pour considérer que c'est stable. 4 jours ou 5 jours d'infléchissement d'une courbe, ça, je peux vous montrer 10 exemples de courbes qui nous ont donné des espoirs et qui, hélas, sont révélées fausses. En tout cas, ça ne baisse pas assez vite et la pression sanitaire, elle va augmenter de toute façon dans les 15 jours. Deuxièmement, le jour, figurez-vous, où je vais dans le service de réanimation du CHU de Marseille, il venait d'y admettre 2 patients en extrême urgence vitale, qui étaient des patients qui étaient hospitalisés à l'IHU, qui correspond à la structure hospitalière du professeur Raoult. Donc il sait très bien que les cas graves continuent, hélas, d'affluer dans les hôpitaux et qu'il nous faut protéger les malades et soutenir les soignants.
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Monsieur le ministre, Virgile Caillé pour les salles de loisirs sportifs marchands. La crise sanitaire a démontré à quel point il était important d'être en bonne santé et le signal envoyé par le gouvernement est consternant. Les salles de sport seraient, je vous cite, des lieux de contamination importante. Nos salles de sport ont rouvert avec des protocoles sanitaires drastiques validés par le ministère de la Santé. Aussi, pourquoi, alors que nous accueillons majoritairement des populations qui ne sont pas à risque, serions-nous plus contagieux que d'autres établissements qui peuvent continuer à travailler normalement ou avec de simples restrictions d'horaire ?
Une incohérence que tout le monde...
Je peux comprendre la réaction et je suis désolé. Je suis désolé de cette mesure qui, je le sais, entraîne de l'incompréhension. Dire que je suis désolé, ça ne veut pas dire que j'estime qu'elle n'est pas nécessaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, quand le monsieur dit des publics qui ne sont pas à risque, c'est exactement ce qui s'est passé cet été. Considérer que les jeunes peuvent se contaminer parce qu'ils ne sont pas à risque. Les jeunes sont moins à risque, mais les jeunes vont contaminer les moins jeunes. Et donc toutes les chaînes de contamination qui vont naître de la jeunesse, hélas, et c'est pas pour opposer les jeunes et les moins jeunes, et les jeunes sont aussi responsables que les autres, ils ont le droit de vivre. Les jeunes se sont payés la crise économique, se payent le réchauffement climatique, se payent la pandémie, se payent le terrorisme. Je fais partie de cette génération et je comprends qu'on ait besoin de vivre, et y compris de faire du sport. Et je suis ministre de la Santé, je crois fondamentalement au sport sur la santé. Mais c'est un fait que quand vous êtes dans un lieu clos et que vous ne pouvez pas garder les distances et que vous allez transpirer, hélas, ça fait partie des chemins de contamination, quels que soient les protocoles. Je n'incrimine personne et nous accompagnerons de la même manière que nous accompagnerons les restaurateurs, celles et ceux qui tiennent des salles de sport. Et encore une fois, tenez bon, c'est nécessaire, ce sera court, c'est temporaire, mais c'est pas arbitraire.
On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury. On parlera notamment vaccination obligatoire ou pas contre la grippe saisonnière. A tout de suite.
RTL, nuit spéciale podcast.
À l'occasion de la journée mondiale du podcast, mercredi soir, RTL vous propose la nuit du podcast. Une nuit spéciale pour découvrir des émissions inédites du studio podcast de RTL.
Grandes affaires criminelles, films cultes, culture américaine, sport, sexualité, environnement. Une nuit pour découvrir une sélection des émissions exclusives de RTL.
RTL, nuit spéciale podcast, c'est mercredi soir à partir de 00h30.
Et pour ceux qui dorment la nuit, tous ces podcasts sont accessibles gratuitement à tout moment sur l'appli RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes de podcasts.
RTL, il est 12h30. Les infos, Aude Vernuccio.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Le profil épidémique n'est plus le même, mais nous sommes dans une deuxième vague dans une série de métropoles. Selon Olivier Véran, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, le ministre de la Santé assure que les capacités en réanimation ont été renforcées avec la possibilité d'accueillir 29 000 malades dans ses services. Pour autant, le gouvernement ne veut pas reconfiner le pays et appelle les Français à agir pour l'empêcher. La semaine prochaine, la plupart des salariés de l'hôpital touchera 90 euros net par mois en plus. Mais le ministre lance un appel afin de pouvoir recruter davantage de personnel, notamment dans les EHPAD. D'après Olivier Véran, toujours, 15 000 soignants ont été recrutés après le Ségur de la Santé. Près de 14 500 cas de Covid-19 ces dernières 24 heures et 39 décès. À Marseille, fermeture des bars et restaurants dès ce soir pour 7 jours, malgré la colère des patrons. La situation sera ensuite réévaluée. À Paris, les débits de boissons devront baisser le rideau à 22 heures dès demain. Les cours de Roland-Garros qui sonnent creux en raison de la pandémie. 1000 spectateurs maximum pour assister au tournoi. 4 Français sont en lice. Moutet, Chardy, Père et Garcia. Rencontre à suivre toutes les demi-heures sur RTL. Les Français et leurs dirigeants ont peut-être mis derrière eux la réalité du terrorisme. Déclaration de Gérald Darmanin en déplacement ce matin à Boulogne-Billancourt. Selon le ministre de l'Intérieur, plus de 7000 policiers et militaires sont mobilisés en ce dimanche de Yom Kippour. Le principal suspect de l'attaque au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo assume son acte. Les enquêteurs ont retrouvé chez ce jeune de 18 ans un manifeste vidéo dans lequel il explique sa colère contre la republication des caricatures du journal. 8 personnes sont toujours en garde à vue à l'heure actuelle. Le scrutin pour les sénatoriales est ouvert depuis 8h30 ce matin en métropole. 87 000 grands électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler la moitié des sièges du Sénat. La météo, beaucoup de pluie et de vent sur la majeure partie du pays. Il y aura de la neige sur les reliefs du Jura, des Alpes du Nord et du Massif central. On aura un temps sec et lumineux sur le sud-est et près des côtes de l'Atlantique. Côté température, elles sont dignes d'un mois d'octobre, compté de 8 degrés environ pour la minimale à Aurillac et 21 pour la maximale à Nice. RTL, il est midi 33. Dans un instant, ne manquez pas votre rendez-vous. Le grand jury qui continue avec Olivier Véran, le ministre de la Santé.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. À demain pour notre balade au cœur du patrimoine musical et à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.
RTL Matin, 7h25, les pépites d'Anthony Martin.
Au fait, maman, j'ai pensé à toi.
Ah bon, pourquoi ?
J'ai contacté la Mutuelle Intégrance. Tu sais, ma complémentaire santé. Ils ont les mêmes valeurs que toi. La solidarité, l'écoute, prendre soin des autres.
Ah, c'est beau de savoir que ça existe encore. Mais elle propose quoi de plus, ta Mutuelle Intégrance ?
Des garanties innovantes et complètes, quels que soient tes besoins. Renseigne-toi.
Ah oui, tu as raison.
La Mutuelle Intégrance peut être aussi la vôtre. Ensemble, vivons l'esprit de solidarité. Plus d'informations sur intégrance.fr.
Bonjour, c'est Ophélie Meunier. Découvrez une enquête très forte de Zone Interdite sur la prostitution adolescente, fléau qui touche de plus en plus de jeunes filles en France. Nous avons rencontré ces ados qui se sont fait piéger, mais aussi leurs mères qui se battent pour sauver leurs filles. Elles livrent toutes des témoignages bouleversants. À 15 ans, mon ado se prostitue. C'est ce soir dans Zone Interdite à 21h05 sur M6.
Mesdames, messieurs, bienvenue à bord de votre train TGV Inouï. En ce moment, la carte Liberté est à prix promo 299€ au lieu de 399€. Profitez de billets à tarif réduit unique en France et en Europe, même en dernière minute. Entre nous, elle est rentabilisée dès 4 allers-retours. Alors à vous les déplacements pro.
Jusqu'au 7 octobre, la carte Liberté TGV Inouï est à 299€ seulement. Profitez-en. Le port du masque est obligatoire durant votre voyage. Retrouvez toutes nos actions pour votre sécurité sur sncf.com. Vente et informations sur Oui SNCF ou en agence de voyage agréée SNCF. TGV Inouï, voyagez avec votre temps.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Gindre de TF1 LCI et Marion Mourgue du Figaro qui vous pose, Olivier Véran, la première question de cette seconde partie.
Vous avez parlé de Noël en première partie en disant qu'on pourrait en principe être en famille. Qu'en est-il des vacances de la Toussaint? Parce que beaucoup de Français se posent cette question. Est-ce qu'on pourra circuler d'une région à l'autre ou est-ce qu'on retourne vers une limitation des 100 km/h comme on a pu le connaître?
Ce qui arrivera à la fin du mois d'octobre dépend de ce que nous ferons dans les prochains jours et les prochaines semaines.
Donc vous n'excluez rien aujourd'hui?
Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Si le virus circule, si sa circulation augmente et qu'elle n'est pas freinée, si nous ne mettons pas tous les moyens nécessaires pour freiner sa circulation, eh bien, il met en danger notre système sanitaire, les hôpitaux, les Français eux-mêmes. Et dans ce cas-là, ça emporte des conséquences plus fortes.
Vous êtes inquiet, Olivier Véran, vous êtes inquiet?
Mais je réponds toujours par la même chose. Je n'ai pas à être inquiet, je suis dans une vigilance, une attention permanente.
Parce que les Français le sont de plus en plus. Et en entendant le discours d'avant du gouvernement, ils le trouvent assez anxiogène et se disent il faut être inquiet. Ils sont inquiets.
La situation a quelque chose de profondément inquiétant pour les Français et de déstabilisant. Les Français ont le sentiment, à juste titre, d'avoir fait des efforts que jamais personne n'avait réalisés auparavant, avec le confinement, d'avoir changé leur façon de vivre, d'avoir des masques, d'avoir réduit leurs interactions sociales, d'avoir certains d'entre eux perdent leur emploi, ont cette crainte légitime du choc économique qui suit la crise sanitaire. Et pourtant, quelques mois après, ils se retrouvent encore avec une circulation du virus. La circulation du virus est un phénomène qui est naturel. Le virus est antérieur à l'homme et nous avons plus de virus dans notre corps humain que de cellules humaines. Les virus, il y en a plein. Il y en a qui sont particulièrement fourbes et qui font des vagues épidémiques. Et quand nous disons qu'il faut vivre avec le virus, c'est-à-dire qu'il faut vivre, mais qu'il faut vivre avec le virus.
Mais ça veut dire, Olivier Véran, qu'on comprenne bien ce que vous êtes en train de dire. On ne pourra pas arrêter la circulation du virus. Ce n'est pas l'objectif qu'on recherche. On cherche juste à atténuer cette circulation. C'est bien ce que vous nous expliquez.
Aucun pays au monde ne parvient à arrêter la circulation d'un virus. En revanche, nous avons déjà réussi collectivement, nous avons fait cet effort et nous avons réussi à freiner et à faire reculer le virus. Nous devons attendre d'avoir un vaccin disponible contre ce virus. Nous avons besoin d'en connaître davantage encore contre ce virus. La recherche fait des progrès extraordinaires. Beaucoup moins de malades vont en réanimation aujourd'hui parce que nous avons de nouvelles manières de soigner avec la dexaméthasone, issue de la recherche française d'ailleurs, qui est utilisée dans le monde entier, avec de l'oxygène intensif aux lunettes au lieu d'avoir un tube dans les voies respiratoires qui peut faire des dégâts considérables. Nous améliorons la prise en charge, mais le virus en lui-même, il circule tant qu'il trouve les autres.
Vous parlez vaccin. Le vaccin, c'est pour 2021?
J'espère, sincèrement.
C'est pas sûr.
Moi, je suis comme vous, Bruno Sportouche, je veux un vaccin qui soit sûr, qui soit efficace et qui soit disponible. Le fait qu'il soit disponible, croyez-moi, ce ne sera pas un sujet, parce que nous sommes, au niveau de la Commission européenne, en train de travailler avec tous les laboratoires sérieux qui peuvent produire un vaccin dans les meilleurs délais. Maintenant, le temps scientifique n'est pas le temps politique, et tant que nous n'avons pas identifié un vaccin qui soit à la fois sûr et efficace, nous ne le proposons
pas
à la population.
Donc on ne peut pas certifier. Il faudra peut-être apprendre à continuer à vivre avec le virus en 2021.
Ça veut dire qu'il faut probablement...
Il n'y aura pas forcément de vaccin en 2021.
Il faut se faire, en tout cas, à l'idée. Il y aura peut-être un vaccin en 2021, je le souhaite profondément. Mm-hmm. Je n'ai pas, aujourd'hui, de réponse ni dans un sens, ni dans dans un autre à vous apporter. Je ne suis pas Madame Soleil, je l'ai déjà dit. En revanche, je peux vous dire que nous allons vivre avec un virus qui aura par moments des phases d'aggravation de la circulation. Nous sommes dans une phase d'aggravation de la circulation. Et des phases plus calmes où le virus fera pas ou peu de dégâts sanitaires, mais il ne faudra pas réduire notre vigilance. Et plus nous serons enclins à l'accepter, le mot acceptation, c'est un mot qui renvoie un peu au langage médical. Quand on parle des phases du deuil ou des phases de réaction face à une maladie. Je suis neurologue, il m'arrive d'annoncer des maladies graves à des gens jeunes qui ne se sentent pas forcément malades et d'essayer de leur faire accepter un traitement qu'ils ne veulent pas forcément. Il peut y avoir du déni, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la sublimation, il peut y avoir tous ces mouvements-là, mais en définitive, on sait que l'acceptation est le seul moyen pour pouvoir être efficace contre une maladie. En l'occurrence, ce n'est pas une maladie collective, c'est un virus qui circule, un phénomène naturel que nous pouvons freiner par les capacités humaines.
Alors, un vaccin qui, pour le coup, lui, existe, celui contre la grippe saisonnière. Est-ce que cette saison, le vaccin va être obligatoire pour les plus de 65 ans et pour le personnel soignant? Est-ce que c'est une option envisagée?
Nous avons une cible qui est de vacciner, de protéger contre la grippe tous les publics dits prioritaires. Ce sont 17 millions de Français, des vulnérables, des gens qui sont malades, des gens qui sont âgés. Et ce sont les gens qui sont des soignants pour ne pas contaminer les malades. Habituellement, nous sommes en dessous de 50% de la cible. Hélas, l'OMS considère qu'il faudrait atteindre 75% de la cible pour pouvoir être pleinement efficace. Nous avons augmenté les commandes de 30% cette année par rapport aux années précédentes.
Pour ces populations-là ou pour la population générale?
En termes de vaccination, nous avons augmenté de 30% les commandes de vaccins pour pouvoir cibler pleinement les personnes qui doivent bénéficier de la vaccination. Se faire vacciner trop tôt, c'est pas bon, parce que le vaccin a une efficacité qui diminue dans le temps. La campagne de vaccination grippale débutera le 13 octobre.
Pourquoi
elle repose sur des recommandations.
Pourquoi vous n'anticipez pas, Olivier Véran? Pourquoi attendre le 13 octobre? Pourquoi ne pas vacciner dès le premier, dès maintenant pour
la grippe? Je vous réponds très simplement. D'abord, la grippe a frappé l'hémisphère sud, avant l'hémisphère nord, comme chaque année. Elle a été retardée. Habituellement, en France, elle arrive le 20 décembre. Si on devait suivre le même parcours que l'hémisphère sud, elle pourrait arriver un peu plus tard, peut-être en janvier. On n'en est pas sûr, mais c'est ce qu'on a constaté. Il y a un phénomène de compétition des récepteurs entre la grippe et le coronavirus. Elle a été plutôt moins forte, tant mieux, du fait notamment des gestes barrières qui protègent aussi d'une certaine manière de la grippe. La vaccination, si vous la faites maintenant, votre vaccin ne sera pas efficace au bon moment. Donc il faut vacciner au bon moment. Le 13 octobre, c'est bientôt. C'est là que commencera la grande campagne nationale. Nous allons insister sur la nécessité que les soignants protègent, se protègent eux-mêmes et protègent leurs malades en se faisant vacciner. Ce n'est pas gagné. Sans que ce soit obligatoire, en insistant très fortement.
Pourquoi ne pas l'enlever? Parce que ça ne passera pas légalement.
Je vais vous mettre un cas pratique. Moi, j'ai besoin d'avoir des infirmières en EHPAD et des aides-soignantes en EHPAD. Si une infirmière et une aide-soignante disent « je refuse de me faire vacciner », ça veut dire qu'elle ne viendra pas en EHPAD travailler. Je fais comment? Je fais comment en période épidémique? Donc il faut, le principe de réalité fait qu'il est extrêmement compliqué de contraindre. En revanche, encourager, expliquer, accompagner, ça c'est important.
Mais uniquement
ça,
les personnels soignants et les plus de 65 ans, est-ce que par exemple Marion Mourgue, Benjamin Sportouche, qui ne sont ni personnels soignants ni plus de 65 ans, doivent se faire vacciner?
Si vous n'êtes pas porteur de comorbidité, comme une hypertension sévère, un diabète déséquilibré, une obésité morbide, ce qui n'est pas votre cas à tous les trois, vous n'êtes pas dans les recommandations de vaccination antigrippale, parce que vous ne ferez pas de forme grave et que le vaccin serait moins efficace. Le vaccin est surtout efficace chez les publics vulnérables et les publics âgés.
Ça
donc nous ciblons, encore une fois, nous avons une vision pragmatique de la chose. Nous ciblons celles et ceux à qui le vaccin antigrippal bénéficiera. Et ça, déjà, en soi, c'est un objectif majeur.
Ça veut dire que l'augmentation de dose de 30% est pour les personnes qui sont à risque. Ce n'est pas pour l'ensemble de la population, cette augmentation.
Chaque année, vous avez une campagne qui cible les publics vulnérables et prioritaires, de mi-octobre à mi-novembre, et ensuite, le vaccin est disponible pour tous ceux qui le souhaitent.
Mais pas d'obligation pour les plus de 65 ans. Renaud Muselier, qui était à votre place, qui est aussi professeur, en médecin en tous les cas, à Marseille, et que vous connaissez, disait qu'il faut rendre obligatoire pour les plus de 65 ans la vaccination.
C'est une réflexion qu'on peut avoir dans la durée. C'est une réflexion que je ne suis pas réfractaire à l'idée. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'ordres ou de syndicats qui sont favorables à ce qu'on accentue la vaccination des soignants.
Mais pas pour cette
saison. Encore une fois, rendre obligatoire la vaccination, ça emporte comme conséquence le fait que les gens ne peuvent plus aller travailler s'ils refusent de se faire vacciner. Ce qu'il faut, vous savez, c'est qu'on fasse reculer de façon générale la crainte dans notre pays. Il faut réenchanter la science dans notre pays. Il faut montrer que la science est une aventure collective, que derrière la recherche médicale, il y a des gens qui sont bienveillants et qui ont envie de soigner les gens et d'aider la population. Et quand ces gens-là vous disent que le vaccin est là pour vous protéger et pas pour vous nuire, il faut qu'on arrive à convaincre les Français. La France est un pays dans lequel le taux de confiance dans la vaccination est parmi le plus faible du monde. Moi, ça me désole, parce que la vaccination est le moyen le plus fiable de lutter contre les grandes épidémies. On a éradiqué des maladies.
Le gouvernement montrera-t-il l'exemple? Est-ce que tous les ministres se feront vacciner contre la grippe à défaut d'avoir l'application Stop Covid, comme ça a été le cas pour le Premier ministre?
Moi, je suis médecin. Je n'exerce plus aujourd'hui, mais je suis médecin, je me rends dans les hôpitaux, je vais voir dans les EHPAD, je vais voir des personnes qui sont vulnérables, je me ferai évidemment vacciner, comme je me fais vacciner absolument tous les ans et sans discussion.
Et vous demandez à vos collègues de le faire aussi, pour l'exemple?
Mais ceux de mes collègues qui sont en situation de devoir se faire vacciner parce qu'ils seraient porteurs d'une fragilité ou parce qu'ils auraient atteint l'âge, évidemment, et ceux qui sont amenés à être en contact avec beaucoup de gens et notamment des personnes vulnérables, oui. Donc on reste dans les recommandations pour les ministres comme pour le reste de la population.
Est-ce que vous avez été cas contact ou pas jusque-là, Olivier Véran, via l'application Stop Covid que vous avez téléchargée? Vous avez beaucoup de contacts, de déplacements. On se dit, naturellement, vous avez été à un moment donné cas contact.
Je n'ai pas été cas contact via Stop Covid. J'ai été testé un certain nombre de fois, notamment lorsque je me suis déplacé à l'étranger ou en Guyane. J'ai eu quelques écouvillonnages, effectivement, comme un certain nombre de Français qui se sont tous révélés négatifs. Sérologie aussi qui m'a été faite avant un déplacement qui était négative. Et à chaque fois, j'ai pris les précautions nécessaires lorsque ça s'imposait.
Adrien Jean.
Il se trouve que je suis resté, vous savez, confiné dans mon bureau pendant 3 mois, pendant la vague épidémique. Vous vous en souvenez,
parce que
la dernière fois que j'étais votre invité, j'étais tout seul dans mon bureau et je ne voyais même pas à quoi vous ressembliez.
Vous venez de l'évoquer, les tests. Alors, l'arsenal s'est étoffé, il y avait les tests qu'on connaissait, vous venez de le rappeler. Salivaire, antigénique désormais. Bon, maintenant que cet arsenal est en train de se mettre en place, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quand est-ce que les Français pourront faire des tests et avoir des résultats rapidement? Puisqu'on a bien vu ces dernières semaines que le problème, plus que le prélèvement, c'était bien le rendu des résultats.
C'était déjà le cas pour 65% des Français avant que nous mettions en place la priorisation, mais 35% qui étaient complètement en dehors des clous, c'était pas bon. Je peux vous dire que les chiffres s'améliorent sensiblement, notamment dans les métropoles dans lesquelles c'était le plus tendu, notamment en Île-de-France. Je présenterai dans les prochains jours les premiers résultats, les premiers bilans, mais ces grands barnums, c'est-à-dire ces opérations de tests massifs destinées au public prioritaire, fonctionnent très bien, avec des délais de rendu de résultats qui sont beaucoup plus courts. Et par ailleurs, je serai amené à présenter dans les tout prochains jours le renforcement de notre stratégie de test qui va faire la part belle à l'innovation avec d'une part les tests salivaires et d'autre part ce qu'on appelle les tests antigéniques qui sont des tests rapides. Dans les prochains jours, nous pourrons commencer à déployer cela. Pour l'instant, nous sommes encore en train de discuter avec les professionnels, les sociétés savantes. Quand nous bougerons, c'est que nous aurons une stratégie pleinement opérationnelle.
Le retour de l'ordonnance obligatoire, c'est pas à l'ordre du jour pour tous, je veux dire.
Mais certains laboratoires le font d'office.
Je l'ai dit il y a quelques temps, de façon très, très transparente, je me suis posé la question. J'ai peur que si on repasse par l'ordonnance, on rajoute 24 à 36 heures de délai finalement avant de commencer à accéder au test. Peut-être que ça réduirait par contre le délai d'accès. En revanche, nous passerions à côté d'un grand nombre de diagnostics que nous faisons chez des publics asymptomatiques. Ça fait partie de notre stratégie depuis le début, que tout le monde puisse bénéficier des tests. Nous sommes montés à 1 300 000 tests, c'est-à-dire qu'on continue de monter, enfin les labos continuent leur effort important. La priorisation, c'est la règle, elle n'est pas antinomique d'un dépistage massif en population.
Olivier Véran, je disais dans l'introduction de cette émission, 7 à 10 jours pour avoir un résultat.
C'est pas normal, je suis d'accord avec vous.
Donc qu'est-ce que vous dites aux Français qui sont asymptomatiques, n'y allez pas?
Je dis par exemple au public prioritaire qu'ils ont désormais des barnums qui leur sont réservés. Il y en a 20 en Île-de-France qui font 500 tests chacun par jour, avec un rendu de résultat dans les 24 heures, voire dans les 24-48 heures, qu'ils y vont sans prendre de rendez-vous, que c'est ouvert de 8 heures à 14 heures, qu'ils vont trouver les mêmes types de dispositifs dans l'ensemble des régions dans lesquelles la situation est sous tension, et que les premiers résultats montrent que 1, le public est nombreux à s'y rendre, 2, cette priorisation du coup se voit renforcée, et que par contre, et par opposition à ce que je viens de vous dire, si je me demande si j'ai le virus alors que je n'ai pas de symptômes, que je n'ai pas été cas contact, que je ne suis pas vulnérable et que je ne suis pas soignant ou aide à domicile, eh bien si je me rends dans un laboratoire et qu'on me dit revenez dans une semaine, ce n'est pas grave.
Vous comprenez que les Français s'interrogent parce que vous avez dit pendant le temps tester, suivant les préconisations de l'OMS. Et puis là, on se retrouve au mois de septembre et on se dit pourquoi tout n'a pas été mis en place? Pourquoi ces barnums n'ont pas été anticipés? Pourquoi n'y en a-t-il pas eu davantage? Pourquoi on n'a pas eu recours à l'armée pour qu'il n'y ait pas ces files d'attente? Parfois, des gens restent des nuits devant les laboratoires pour se faire tester. Est-ce qu'il y a eu un manque d'anticipation que vous pouvez reconnaître aujourd'hui?
Mais j'ai déjà reconnu qu'on avait été mis en difficulté sur la priorisation, victime d'un très très grand nombre de personnes qui ont souhaité se faire tester, avec aussi des opérations collectives renouvelées dans certaines entreprises qui demandent à leurs salariés d'être testés toutes les semaines. Des choses qui ne font pas forcément sens par ailleurs. Et je l'ai dit, c'est tout à fait anormal, et c'est pourquoi nous avons réagi. Quand je dis « nous », encore une fois, C'est pas moi avec mes petits bras qui vais faire les PCR d'1 300 000 Français par semaine. C'est les laboratoires à qui nous demandons.
Il manque de réactifs, Olivier. Dans certains, on manque de réactifs.
J'ai déjà répondu à cette question. L'ensemble des fournisseurs ont d'ailleurs répondu publiquement qu'ils disposent du double de l'équivalent de la consommation nécessaire dans notre pays. Par contre, il y a des problèmes d'articulation des stocks entre les laboratoires et un certain nombre de labos qui sont soumis à rude épreuve. Enfin, je me mets à la place d'un laborantin de biologie ou d'une infirmière qui fait des prélèvements à tour de bras toute la journée. Au bout d'un moment, ça devient lassant ou fatigant. C'est pourquoi nous avons proposé aux laboratoires de recruter d'autres personnes. Ils ont les moyens financiers pour le faire, puisque nous payons ces tests au juste prix, ce qui leur permet d'embaucher du monde, ce qu'ils font d'ailleurs. Certains labos font désormais tourner les plateformes de PCR la nuit, pour pouvoir rendre les résultats plus vite.
C'est un effort collectif. Ils vous disent comme à l'hôpital.
Non, ça, pardon, excusez-moi. J'ai réuni l'ensemble de la filière des labos. Personne ne me dit qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à identifier du personnel pour faire les prélèvements de tests PCR. Personne. Parce qu'ils peuvent embaucher jusqu'aux étudiants, qui sont très mobilisés d'ailleurs, aux aides-soignantes, aux infirmières, aux secouristes, aux pompiers. C'est-à-dire le public qui peut participer à cet effort de guerre est un public très fourni aujourd'hui. Et je le remercie, comme je remercie l'ensemble de la filière qui est mobilisée depuis des mois dans notre pays. 1 300 000 tests, c'est un effort conséquent.
Marion, Véran, il y a un point sur lequel les Français s'interrogent, c'est le télétravail. On a du mal à comprendre aujourd'hui si c'est la règle ou l'exception. Avant l'été, ça semblait être la règle. À la rentrée, ça a été moins suivi par les entreprises. Aujourd'hui, est-ce que vous préconisez un retour au télétravail ?
C'est très encouragé.
Quelle proportion et sur quel territoire ?
C'est très encouragé dès que c'est possible pour les gens qui sont porteurs de maladies ou de vulnérabilités. C'est très encouragé et recommandé dès que c'est possible dans les zones d'alerte renforcées et encore plus dans les zones d'alerte maximales. Et je le redis, c'est une mesure importante. Et c'est une mesure qui, en plus, est efficace dans le sens où les retours que nous avons des entreprises, c'est que ça marche, le télétravail. Ça fonctionne. Mon propre ministère a maintenu le télétravail de façon massive. Je crois que dans la fois que j'ai demandé, il y avait plus de 50% des salariés qui sont en télétravail. Et lorsque je réunis mes directeurs d'agences centrales, d'administration, en leur demandant comment ça marche, ils considèrent que non seulement le boulot est fait, mais que des fois ça va même encore plus vite. Donc le télétravail, il ne faut pas en avoir peur. Et ça permet d'être... C'est une mesure qui est aussi efficace contre la circulation du virus, si tant est que par ailleurs, on fasse attention dans la sphère privée.
Mais aujourd'hui, c'est un peu à la carte. Laurent Berger, à la tête de la CFDT, demande que ce soit cadré, que le gouvernement donne finalement un protocole assez clair. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites il faut tant de temps de travail en télétravail pour les entreprises? Est-ce que vous appelez à quelque chose d'un peu plus clair, un peu plus détaillé?
Ce que je note, c'est qu'à chaque fois que nous mettons des règles, des indications nationales qui doivent être appliquées territorialement, on nous dit que les règles ne sont pas claires, et qu'à chaque fois que nous prenons des règles uniformes nationales qui doivent s'appliquer partout, on nous dit qu'on ne s'appuie pas assez sur le terrain. Je vous dis les choses en sincérité, le télétravail, dès que c'est possible, surtout dans les zones où le virus circule et où les publics, où les salariés sont potentiellement vulnérables. Ensuite, les gens s'organisent. On ne peut pas être derrière chaque entreprise ou chaque et dicter sans arrêt. Encore une fois, on est toujours dans le procès en jacobinisme ou dans le procès en vous défaussez sur les territoires ou sur les entreprises. Je ne dis pas que c'est simple. C'est notre, j'allais dire mon sacerdoce. Non, ce n'est pas un sacerdoce. Mmh. C'est une mission. C'est notre fonction collective que d'être capable d'impulser les bons changements pour protéger les Français. Et après, il y a le bon sens qui opère aussi. Il y a aussi le bon sens. Quand vous savez que vous êtes à la tête d'une entreprise qui peut très bien tourner si les salariés ne font pas une heure de bagnole le matin et ne vont pas s'exposer les uns les autres dans une usine parce qu'ils peuvent faire ce travail de la maison, bien c'est à vous aussi en responsabilité de le dire à vos salariés et de l'encourager.
C'est l'heure de questions express.
Le grand jury, questions express.
Olivier Véran, pour ou contre l'uniforme à l'école ?
C'est très loin de mes préoccupations du moment. Je comprends que ce soit une vieille préoccupation française. J'ai deux enfants de 7 et 10 ans.
Le ministre de l'Éducation nationale a parlé de tenue républicaine pour aller à l'école. Se pose la question de l'uniforme.
D'un côté, vous avez un côté réduction des inégalités sociales qui fait qu'il y a des gens qui viennent avec des vêtements de marque et d'autres qui ne peuvent pas se payer des belles fringues. Ça peut être le motif. Après, les enfants, franchement, moi j'ai deux enfants de 7 et 10 ans. Je les vois le matin s'habiller, parfois complètement à l'arrache, parfois de façon très soignée. C'est leur petit bonheur dans la vie, donc je ne suis pas sûr qu'il faille qu'on aille réguler jusqu'à ce niveau-là.
C'est dit. Pour ou contre, Olivier Véran, et c'est dans votre domaine, la distribution de repas aux migrants de Calais par des associations non mandatées par l'État ?
Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de repas qui sont distribués, et je me suis évidemment enquis de la situation à Calais. J'ai concerté les associations, parce que c'est important de concerter des associations quand on prend des décisions aussi forte que celle-ci. En pratique, les distributions de repas se font partout où c'est nécessaire, avec des associations. C'est en l'occurrence quelques rues qui ont été, pour qui on a demandé aux associations de ne plus s'y rendre. Je travaille à ce sujet-là avec mes homologues Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, et je suis attentif à la situation de tous les miséreux de ce pays, quel que soit leur statut et quel que soit leur endroit de résidence.
Il y a des députés de France Insoumise qui ont été verbalisés pour avoir distribué des repas avant-hier.
Mais moi, je ne fais pas dans... Enfin, pardon, vous m'emmènerez jamais sur le chemin de la politique provoque. Moi, je suis pour une politique humaniste et pragmatique. Donc on travaille avec les assos, on réfléchit avec elles pourquoi est-ce qu'on en est à ce type de situation, on leur explique, on prend le temps de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on prend des décisions, et ensuite on les fait appliquer, voire on les corrige si jamais on se rend compte que c'est compliqué.
Très rapidement, pour ou contre l'interdiction de certificats de virginité par les médecins ?
Totalement contre les certificats de virginité. Je rejoins la position de ma collègue Marlène Schiappa. Que voulez-vous que je vous dise ? Je ne suis pas ministre de l'Intérieur, mais je n'en comprends pas le sens ni la motivation et je considère que c'est anachronique.
Pour ou contre, dernière question, Olivier Véran, candidat aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, face notamment à Laurent Wauquiez.
Si je vous dis aujourd'hui que je quitte mon ministère pour aller faire des meetings dans la région Auvergne-Rhône-Alpes que j'affectionne beaucoup, vous vous demanderiez si j'ai été raisonnable de venir devant
vous. Vous resterez au ministère de la Santé.
Ma mission, elle est aujourd'hui de lutter contre cette épidémie. Je ne vous parle pas d'une candidature, je vous parle de ma mission actuelle. Et tant que le virus est là, et tant que le virus nous cause des tracas, et tant qu'il faut pouvoir porter un message de pédagogie et d'explication, je serai à mon poste. Et je pense que, hélas, vous l'ayant suggéré tout à l'heure, le virus est là pour un moment, donc je pense être là pour un moment.
Donc, au-delà des élections régionales, c'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Olivier Véran. Jean-Marie Bigard a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux, il a même été jusqu'à vous insulter. Est-ce que vous mettez ça sur le compte de la colère ou est-ce que alors vous comptez par exemple porter plainte contre lui ?
Pardon, je vais reprendre une expression utilisée par un ancien Premier ministre, mais je me contrefous de l'expression de tel ou tel à mon égard. En revanche, je note, et c'est l'un des fondements de mon engagement en politique, cette espèce de violence débridée, cette violence sociale qui s'exprime sur les réseaux sociaux, à visage couvert ou visage découvert. Ça m'inquiète pour notre société, pour notre capacité à vivre ensemble. De façon générale, je pense qu'il faut qu'on fasse un travail collectif sur la violence et les victimes de violence, qui peut prendre différentes formes. Ça peut être l'injure, masquée ou non, anonyme ou non. Ça peut être l'injure ou l'agression dans la rue. Je ne compare pas les niveaux de violence et d'intensité, évidemment. Mais je trouve que nous sommes une société qui est vraiment, vraiment soumise à de plus en plus d'expressions de violence, comme si c'était devenu la norme, la règle, ou que c'était pas grave. Je prends très au sérieux la notion d'injure, d'insulte, d'agression, quelle qu'elle soit, et je pense que nous aurons aussi un travail collectif à mener, sociétal, sur ces sujets-là.
Donc, pas de peine. Autre question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, tout autre sujet. On a reçu beaucoup de questions très précises de Joël, Maria, Ouria, Pascal, qui s'étonnent de n'avoir eu aucune mesure pour les transports en commun. Est-ce qu'il faut remettre une distanciation physique dans les transports en commun? Ils sont obligés de les prendre tous les jours et ils s'inquiètent.
Nous avons mis beaucoup de mesures dans les transports en commun, et les données que nous avons attestent que ces mesures sont efficaces, puisque ce n'est pas dans les transports en commun qu'on se contamine le plus, loin s'en faut aujourd'hui.
Donc il n'y a aucun risque de prendre les transports en commun avec le masque, même sans distanciation?
Je vous dis que les règles sanitaires qui ont été mises en place, corrélées au fait qu'il faut poursuivre notre vie avec le virus, font qu'aujourd'hui la situation me paraît assez claire dans les transports en commun.
Sur les masques.
Oui, autre question qui revient, est-ce qu'on peut laver et remettre son masque chirurgical? Parce que des chercheurs, eux, assurent que c'est une possibilité et en plus ce serait beaucoup plus économique et écologique. Est-ce que vous, vous le recommandez?
Alors ce qui serait plus économique et écologique, je ne sais pas si je l'ai avec moi dans ma main. Ah oui, on est en radio, mais voilà, je le sors quand même. Moi, je vous dis, j'ai le bon vieux masque blanc, lavable, textile. Si vous le sentez, il sent la lessive. Je l'ai lavé hier soir, comme je lave souvent mes propres masques. Mais le plus écologique, ce n'est pas le masque chirurgical. C'est pas le plus écologique n'est pas le chirurgical.
Oui, mais
vous me verrez rarement avec, sauf dans les milieux soignants notamment.
Les entreprises distribuent des chirurgicaux. Est-ce qu'on peut les laver?
Moi, je pense que les entreprises doivent distribuer des masques lavables que nous avons développés en France, qui sont écologiques, qui ne polluent pas. Quant à savoir si on lave un masque chirurgical, honnêtement, je ne me risquerai pas à une réponse. Il faudrait pour ça faire une saisine des autorités compétentes pour qu'elles déterminent si oui ou non et à combien de degrés, est-ce qu'on le repasse ou non. Franchement, on a des masques aujourd'hui, on a surtout des masques lavables, réutilisables, c'est
sur
bien.
Sur les masques chirurgicaux, est-ce que vous comptez baisser le prix plafond qui est à 95 centimes le masque ou pas? Le prix est en train de baisser.
Le prix a baissé de lui-même, il continue de baisser de lui-même puisque nous sommes très très loin des tensions sur les stocks que nous avons pu rencontrer. Mais à nouveau, je m'intéresse plus aux masques lavables aujourd'hui destinés au grand public.
Non, mais 95 centimes, est-ce que ça peut baisser? Est-ce que vous souhaitez que ça baisse? Parce que c'est vrai qu'il y a des enseignes qui continuent.
Ça va baisser spontanément avec le marché, mais je vous le dis, si vous voulez faire aussi baisser les prix, soyons moins nombreux à acheter des masques chirurgicaux quand ce n'est pas nécessaire et utilisons ont des masques qui sont très bien filtrants et qui sont produits dans de bonnes conditions par nos entreprises et qui sont écolos.
Le message est lancé. Merci Olivier Véran, merci d'être venu à cette émission. Très belle semaine à tous, à la semaine prochaine.